Bonsoir, comment allez-vous? Un jour, quelqu'un dit à Socrate, le philosophe grec, « Socrate, j'ai quelque chose à te dire à propos de ton ami. » « Un instant, dit Socrate, j'aimerais d'abord te faire passer le test des trois passoires. » On devrait toujours faire ce test avant de parler de quelqu'un. Alors, premièrement, as-tu vérifié ce que tu veux me dire? Non, mais c'est quelqu'un de bien qui me l'a dit. Certes, mais tu ne l'as pas vérifié. Deuxième passoire. Ce que tu as à me dire, est-ce positif? Oh ben non, au contraire, figure-toi que cet abruti de... Donc, tu veux me dire du mal de lui et tu n'es pas certain que ce soit vrai. Écoute, Socrate, quand tu sauras ce qu'il a fait... Justement, voici la troisième passoire. Est-ce vraiment utile que je sache ce qu'il a fait? Ben non, mais ça me démange de te le dire. Je comprends, mais si ce n'est ni vrai, ni bienveillant, ni utile, ce n'est pas la peine de me le dire.
Bonjour, je m'appelle Milo, j'ai 6 ans et je voudrais savoir pourquoi on ne peut pas être ami avec tout le monde.
Pourquoi on ne peut pas être ami avec tout le monde? Ben merci Nino, parce que je pense que nous sommes nombreux à nous poser cette question. Charles Pépin, vous êtes écrivain, philosophe, professeur.
On voit bien qu'on ne peut pas être ami avec tout le monde. Parce que c'est la magie de la rencontre. Elle a lieu ou elle n'a pas lieu. Et tant mieux, c'est ça qui est intéressant.
Et qu'on se sent privilégié quand on est ami.
Oui, et puis surtout, je pense que devenir ami, ça prend du temps. Il faut rencontrer la différence de l'autre, apprendre à aimer cette différence et cette conflictualité. Et ça nous fait grandir une vraie relation d'amitié. C'est ce que dit Aristote, un ami, c'est quelqu'un qui te rend meilleur. Et évidemment, c'est pas n'importe qui peut me rendre meilleur. Il faut qu'on se soit rencontré, qu'on ait des choses à partager, qu'on ait une manière d'être différent, qui soit compatible avec la proximité. Et tout ça est assez rare. Et je dirais, c'est comme l'amour. On peut pas aimer tout le monde. On aime que quelques personnes, et c'est pour ça qu'on aime. Et c'est pour ça que cette personne se sent élue, privilégiée. Et c'est très heureux. D'ailleurs, ça m'amène à une remarque, qui est qu'il y a une injonction à l'amour universel dans le christianisme, qui est peut-être trop forte. On nous dit d'aimer tout le monde, hein, dans la Bible. Aime ton ennemi, aime ton prochain comme toi-même. Et on peut s'interroger, dans le fil de cette question, sur cette injonction chrétienne. Est-ce qu'elle ne nous fait pas du mal, parce qu'elle nous demande d'aimer tout le monde? Or, en raison de tout ce qu'on a dit tout à l'heure, ça n'est pas possible. On ne peut aimer que quelques personnes. Ça prend du temps et ça te prend de l'énergie d'aimer quelqu'un vraiment et de le respecter.
Et donc peut-être. Et de le connaître. En fait, on aime que ce qu'on connaît.
Oui, je crois qu'on aime quelqu'un parce qu'on le connaît et aussi parce qu'il garde une part de mystère. C'est les deux. Mais du coup, peut-être parfois on se sent coupable de ne pas aimer tout le monde. Et pourquoi on se sent coupable de ne pas aimer tout le monde? Parce que peut-être on est de cette culture chrétienne et qu'on nous a dit, au catéchisme ou à la messe ou ailleurs, qu'il fallait aimer tout le monde. Or, comme le montre bien la psychanalyse et Freud, la réalité c'est qu'on ne peut pas aimer tout le monde, on ne peut aimer que quelques personnes, comme ta question le révèle. Du coup, on se sentirait coupable de ne pas être à la hauteur de cette injonction à l'amour universel propre au christianisme. Voilà pourquoi il faudrait peut-être prendre un peu de distance par rapport à cette injonction et comprendre qu'en effet, l'amour et l'amitié sont rares et que c'est pour ça qu'ils sont bons.
N'empêche que, Charles Pépin, plus on vieillit et plus on aime. Ce qui voudrait dire que peut-être si on vivait 200 ou 300 ans, on aimerait tout le monde.
Si on vivait 10 000 ans, vous voulez dire? Non, c'est optimiste ce que vous dites.
Mais vous n'y croyez pas.
Non, j'aimerais y croire.
Charles Pépin est très jeune, tout philosophe qu'il est. Vous trouverez les titres de ses livres sur le site des Petits Bateaux. Mais si, en vieillissant, on est de plus en plus bienveillant. Ah, on devrait en tout cas. Dans ces Petits Bateaux de ce soir, nous saurons pourquoi au Moyen-Âge on faisait plus de batailles sur terre qu'en mer, comment font les serpents pour se reproduire et pourquoi l'aluminium ne rouille pas et de quelle façon il vieillit.
Bonjour, je m'appelle Jules, j'ai 11 ans. J'aimerais bien savoir pourquoi on a utilisé le bleu pour les panneaux sur les autoroutes alors que c'est la couleur de la mer. Merci, au revoir.
Bien vu, Jules, c'est le cas de le dire. La signalisation routière en France, c'est vous qui avez écrit ce livre chez AMC Édition, Jacques Nouvier, le bleu autoroute.
Alors, même si l'autoroute mène parfois à la mer, il n'y a pas de relation de cause à effet. En revanche, on peut se poser la question du choix du bleu pour la signalisation des mentions autoroutières, alors que quand on va dans certains pays étrangers, en Italie par exemple, on se rend bien compte que la signalisation autoroutière est différente, elle est à fond vert. Alors en France, ce qu'il faut bien voir, c'est que quand les premières autoroutes ont été construites, c'est-à-dire au début des années 50, l'idée était de continuer avec la signalisation blanche qu'on avait sur les routes. Et puis quand même, au début des années 60, comme on a vu qu'il y avait des choses qui se passaient à l'étranger, les responsables de l'époque, ils se sont mis à imaginer différentes solutions pour les panneaux autoroutiers. Alors je vous dis les différentes solutions. 1. Des panneaux à fond blanc rétro-réfléchissants avec lettres bleues. Rétro-réfléchissant, ça veut dire qu'ils renvoient la lumière pour être visible la nuit. Hein. Solution 2. Panneaux à fond vert et lettres blanches, rétro-réfléchissants ou non. Solution 3. panneau à fond bleu rétro-réfléchissant avec lettres blanches. Et là, on a abandonné tout de suite, parce que figurez-vous que avec les phares jaunes qu'on avait à l'époque, le bleu rétro-réfléchissant, ça donnait une couleur verte absolument infâme, insupportable. Et donc, il y a eu la quatrième solution qui a été finalement adoptée, qui était le fond bleu non rétro-réfléchissant avec lettres blanches. Et ça, ça a duré pendant longtemps. Et puis, après, on a pu changer, parce qu'en 95, vous savez que il y a eu la décision d'autoriser les phares blancs, et donc les phares jaunes sont morts, on peut dire, dans l'année ou dans les deux ans. Oui. Et donc maintenant, c'est un petit peu différent. Alors la convention de Vienne, une convention internationale qui s'est tenue dans la capitale autrichienne en 1968. Sur la signalisation, on dit absolument rien sur ces questions de couleurs, ça il faut le savoir. Mais par contre, ce qu'on constate, c'est que d'un pays à l'autre, les situations sont quand même très différentes. Et c'est sans doute pour ça que la convention ne dit rien, parce qu'elle aurait été signée par personne. Alors, la France a essayé en 95, quand elle avait la présidence de l'Union, de lancer des initiatives pour harmoniser la signalisation, au moins en Europe. Ça a été un échec absolument total.
Ah bon ?
Total.
Parce que c'est vrai qu'on se trompe, hein, quand on va en Italie, on pense qu'on va prendre l'autoroute, en fait on prend la nationale, parce que nous, voilà, en bon français, on cherche le bleu pour aller sur l'autoroute.
Alors le fond bleu, justement, puisque vous en parlez, il a été adopté par l'Allemagne, l'Autriche, l'Espagne, la Grande-Bretagne, la Hongrie, l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal... Et bien sûr la France.
Pas mal.
Alors, oui, c'est pas mal, mais par contre, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a des différences de logique, quelquefois, même en utilisant la même couleur. Puis le fond vert, c'est utilisé actuellement par les autres pays, et pour se limiter à ceux qui sont vraiment autour de nous, la Belgique, l'Italie et la Suisse. Donc, l'harmonisation ne sera sans doute pas pour demain, et c'est bien dommage.
Jacques Nouvier est président du groupe de l'OCDE sur la gestion de la vitesse.
Oh, vous l'avez entendu comme moi, on ne dit pas basé sur, mais fondé sur. On dit je me le rappelle et je m'en souviens. On ne dit pas hein, mais comment ?
Je me souviens, je me rappelle, c'est dans ces vieux chers à mon cœur. Le jour baissait, j'étais près d'elle. Je me foutais bien du malheur. Dissimule dans le silence des sentiments, des espérances qui montent et plongent sans bruit, étoiles brillantes dans la nuit. Très doucement jouait le vent. Alors elle me semblait si belle. Alors moi j'avais tout le temps. Dissimule dans le silence des sentiments, des espérances qui montent et plongent sans bruit. Étoile brillante dans la nuit. Je me rappelle une croix trop lourde pour moi, un bois qui pèse et m'écartèle. Pourtant comme jamais cette croix dissimule dans le silence des sentiments, des espérances qui montent et plongent sans bruit, étoile brillante dans la nuit. Je me rappelle ces temps si vieux et chers à mon cœur. Le jour baissé, j'étais près d'elle. Je me foutais bien du malheur. Je me souviens, je me rappelle très doucement. Le vent jouait, alors elle me semblait si belle. Et loin le temps, je l'avais, oui. Je me souviens, je me rappelle une croix trop lourde pour moi. Un bois qui pèse et m'écartèle. Et pourtant, je l'aimais, cette croix. Je me souviens, je me rappelle. Je dissimule dans le silence mes sentiments, mes espérances. Qu'il monte et plonge sans bruit, étoile brillant dans la nuit, étoile brillant encore dans la nuit, dans la nuit, dans la nuit. Et puis, et puis.
C'était Daniel Darc. Je me souviens, je me rappelle. Ah, mais les artistes, eux, peuvent tout se permettre.
Les petits bateaux sur France Inter.
Pour poser une question, vous faites le 01 56 40 43 57. Didier Le Fur est historien.
Bonjour, je m'appelle Romain, j'ai 9 ans et je voudrais savoir pourquoi au Moyen-Âge on faisait presque que des batailles sur la terre et presque pas de batailles en mer. Merci de me répondre.
Bonsoir Romain. Didier Le Fur, vous venez d'écrire La France de la Renaissance chez Talendier. Vous pouvez répondre à Romain.
Alors la raison est toute simple. La guerre, on l'a fait pour conquérir de nouveaux territoires ou alors se défendre contre des envahisseurs. La France en tout cas, mais aussi les autres territoires, l'Espagne ou certains territoires italiens font partie de ce continent européen, donc ont des frontières terrestres, essentiellement terrestres, et c'est sur ces frontières qu'ils se battent. La notion de marine, telle qu'on la conçoit aujourd'hui, est une notion récente. Elle date, en tout cas pour la France, du milieu du XVIe siècle, et longtemps, on n'a même pas imaginé faire des batailles navales. Forcément, il y avait les Anglais aussi.
Voilà, c'est ça
que les Anglais devaient traverser la Manche pour venir chez nous. Eh bien, eux avaient une marine, mais très vite aussi, ont cherché à s'implanter sur des territoires français,
terre ferme.
Voilà, sur la terre ferme, comme Calais, par exemple, qu'ils ont tenu pendant plus de 2 siècles et qu'ils ont gardé mordicus malgré toutes les attaques des rois de France régulières pour essayer de récupérer ça. C'était une base terrestre qu'ils pouvaient utiliser régulièrement en traversant tranquillement la Manche et puis après former là une armée. D'autre part, pour envahir un pays, une armée contre une autre armée n'était jamais suffisante, à moins pour l'Italie, parce que là, on savait très bien que les forces militaires étaient complètement disparates. Or, chaque conquérant avait besoin d'alliés. Et donc, ces alliés devaient être aussi terrestres et donc s'associer ensemble pour pouvoir vaincre celui dont on accusait d'usurper un territoire. En général, c'était toujours par des droits qu'on faisait la guerre et on critiquait toujours le voisin en disant qu'il nous avait piqué notre territoire et en disant que le papier que l'on avait entre les mains, ou en tout cas un droit lié à un mariage ou des choses comme ça, eh bien, justifiait la guerre et la conquête.
Les différences, si je comprends bien, étaient très juridiques.
Au départ, en tout cas, on ne fait pas la guerre par envie, on fait toujours la guerre par nécessité. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des lois très très claires où on ne fait la guerre que si on a des droits à défendre, des droits parce que une terre nous appartient et qu'elle a été usurpée, ou alors parce que on est à se défendre dans la nécessité de se défendre puisque une autre personne cherche à nous envahir, à nous usurper des droits.
Donc c'est dernière extrémité.
Non, parce que finalement, on fait toujours la guerre et que le but, finalement, de toute cette période, c'est d'agrandir sa puissance. Et la mer, en plus, a ce défaut, c'est que elle est violente, les vents sont contraires, quelquefois les ports ne sont pas suffisants.
Parce elle complique l'affaire.
Elle complique terriblement l'affaire. Alors, pour les guerres d'Italie, au XVIe siècle, on a commencé. Justement. Mais il fallait quand même des bornes terrestres. Et c'est pour ça qu'on, c'était la première conquête de la Corse, par exemple, sous Henri II. C'est parce que justement, elle servait de bornes terrestres pour ramener des militaires et après faire un va-et-vient. Mais l'idée, toujours, était de faire toujours une guerre terrestre.
Didier Le Fur est docteur en histoire. Il a écrit sur la Renaissance, sur l'Inquisition en France, entre autres chez Talendier, mais vous trouverez la totalité de ses livres sur le site des Petits Bateaux.
Je m'appelle Jules, j'ai 6 ans. Je voudrais savoir pourquoi les chats sont devenus un animal de compagnie ? Merci.
Bonsoir, Jules. Peut-être que tu seras l'élève de Vinciane Després plus tard, puisque vous enseignez à l'Université de Liège. Vinciane Després, vous êtes philosophe, passionnée d'éthologie. Vous êtes également écrivaine, autobiographie d'un poulpe chez Actes Sud. C'est votre dernier livre. Mais là, Jules parle des chats.
Alors je pense qu'il faut apporter la réponse la plus simple, surtout à propos des chats. Jules, les chats sont devenus des animaux de compagnie parce qu'ils en avaient envie. Parce que essayer de faire quelque chose à un chat qu'il ne voudrait pas faire, vous n'y arriverez jamais.
J'adore.
Donc si les chats sont devenus des animaux de compagnie, c'est parce qu'eux le voulaient. Ce qui sera peut-être pas le cas des chiens, peut-être pas le cas des chevaux, peut-être pas le cas des moutons, peut-être pas le cas des vaches. Mais pour les chats, j'en suis persuadée. Alors, je vais te raconter une histoire sur les chats. Il y a une philosophe du XXe siècle, hein, ça commence à devenir, elle écrivait à la fin du XXe siècle, que les expérimentateurs... Alors, qu'est-ce que c'est qu'un expérimentateur ? C'est un scientifique qui fait des expériences avec les animaux. Et les expériences, c'est pas nécessairement des expériences douloureuses pour essayer des médicaments, ça peut être des expériences... Tiens, est-ce qu'il est capable, quand une petite lumière s'allume, de savoir qu'il doit appuyer sur un levier ? On fait ça avec les rats. Est-ce qu'il est capable de reconnaître la couleur rouge, la couleur jaune, par exemple ? Et des choses comme ça. Et on a essayé de faire des expériences avec les chats pour essayer de voir est-ce qu'ils sont très intelligents, est-ce qu'on peut leur demander de reconnaître certaines choses. Eh bien, les expérimentateurs expérimentés, donc ceux qui avaient beaucoup travaillé avec des animaux, disaient aux jeunes expérimentateurs qui commençaient à faire des expériences, ne travaillez jamais avec des chats.
Ah tiens, pourquoi ?
Ne travaillez jamais avec des chats, ils vont foutre vos données en l'air. Alors ça veut dire quoi, ils vont foutre vos données en l'air ? Ça veut dire, ils vont commencer et ce sera brillant parce qu'ils sont très malins. Et au bout d'un moment, ils vont complètement arrêter et se laisseront plutôt mourir de faim que de continuer à faire ce que vous leur demandez. Alors on pourrait se dire, mais ce sont des chats rebelles. Les chats sont des rebelles ? Pas du tout, c'est pas ça. C'est les chats pour les chats, disait cette fameuse philosophe Vicky Hearn. Faire plaisir aux êtres humains est une des choses les plus importantes au monde. Mais ils ne veulent pas être obligés de faire plaisir, parce que si vous êtes obligé de faire plaisir, c'est pas faire plaisir. C'est comme un cadeau forcé. Ça s'appelle du racket, c'est plus un cadeau. Eh bien, les chats sont tellement conscients que faire plaisir est une chose importante, que si à un moment donné ils comprennent qu'ils doivent répondre dans la petite expérience qu'on leur demande, qu'ils sont obligés de le faire, eh bien ils arrêtent de le faire alors qu'ils avaient commencé pour faire plaisir à l'expérimentateur. Eh bien ça, c'est les chats. Et je pense que Vicky Hearn ne se trompait pas tout à fait. Les chats ont toujours leur idée bien à eux. Et on ne peut jamais contraindre un chat. Vous savez ce que les Anglais disent des chats ? Ils disent qu'ils sont toujours du mauvais côté de la porte. Ils demandent pour sortir, vous le sortez. Et 2 minutes après, ils miaulent pour rentrer. On disait aussi que les chats, ils ne sont pas chez vous, c'est vous qui êtes chez eux. Donc ça veut dire qu'en fait, les chats ont peut-être eu le sentiment, et que c'est pour ça qu'ils sont restés, qu'on s'était installés chez eux, et peut-être qu'ils se disaient, bon, on va attendre qu'ils partent. Peut-être qu'un jour, on en sera débarrassé de ces fichus humains. Ils sont chez nous. Et peut-être qu'un jour, ils ont compris qu'ils recevaient de l'amour, qu'ils recevaient du lait, qu'ils avaient parfois une petite souris à chasser, qu'ils pouvaient s'occuper de retenir le bébé au chaud ou de lui tenir compagnie, et que les chats ont fini par s'habituer à nous et à rester.
Allez, accrochez-vous, le dernier livre donc de la philosophe Vinciane Després s'appelle « La danse du cratérope écaillé » et il est édité aux Empêcheurs de penser en rond.
So Bonjour, je m'appelle Nino et j'ai 14 ans. Et j'aimerais comprendre pourquoi l'aluminium ne rouille pas et de quelle manière il s'abîme. Merci, au revoir.
Pourquoi le fer rouille? Je m'appelle Amélie, j'ai 6 ans. Au revoir.
Bonsoir Nino et Amélie Claudris, vice-présidente de l'Institut pour l'histoire de l'aluminium et ancien directeur du département filage, bâtiment et distribution de Péchinet. Voici deux questions sur la rouille.
Bonsoir Nino et Amélie. Vous posez pour deux métaux différents à peu près la même question. Alors on va les examiner l'une après l'autre. Pourquoi le fer rouille? Le fer rouille parce qu'il se forme au contact de l'air, de l'air un petit peu humide, une couche d'oxyde qui vient à la surface, bien évidemment, du métal, et cette couche est poreuse, si bien que si on laisse un bout de fer longtemps exposé, par exemple en milieu marin, au bord de la mer ou au bord d'une rivière, cette couche qui est poreuse va continuer à se former en forme de plus en plus de rouille, et si on est suffisamment patient, au bout de quelques mois ou de quelques années, eh bien, le métal aura totalement disparu, ou du moins se sera transformé sous forme de rouille. La rouille étant un oxyde de fer particulier. Alors la question qui vient évidemment, c'est pourquoi ça se produit pas dans le cas de l'aluminium?
Exactement ce à quoi j'étais en train de penser.
Eh bien, la réponse est la suivante. Il se forme exactement de la même façon à la surface de l'aluminium une couche d'oxyde, tout comme on avait de la rouille à la surface du fer. Cette fois, on va former une couche d'alumine. Mais à la différence essentielle de la rouille, cette couche est imperméable et va protéger l'aluminium. Alors, elle est très fine, cette couche. Elle fait une fraction de micron, un dixième, deux dixièmes de micron seulement.
On ne voit pas.
Mais les ingénieurs se sont très vite intéressés au phénomène et se sont dit, puisqu'elle protège l'aluminium, essayons de voir si on peut augmenter l'épaisseur de la couche pour augmenter la protection. Et ceci se fait maintenant couramment, c'est ce que l'on appelle une opération d'anodisation. Je ne rentre pas dans le détail.
Anodisation?
Voilà, anodisation comme anode, parce que le métal que l'on veut protéger est mis en position d'anode. Et on va construire une couche artificielle d'alumine, dont on peut régler l'épaisseur. Cette couche, au départ, est poreuse, ce qui peut comporter un avantage, c'est-à-dire qu'on peut mettre... Par exemple, dans les trous, on peut mettre par exemple des pigments et on va obtenir une couche colorée. Mais à la fin, il faut quand même la rendre à nouveau étanche. Et pour ça, il faut la plonger dans de l'eau bouillante, le temps nécessaire est suffisant. Et on va reformer une couche absolument protectrice, car étanche.
Elle s'appelle comment cette opération de plonger dans l'eau bouillante pour reformer une
couche? C'est le colmatage de la couche, tout simplement. Et vous avez une très belle... illustration de ce phénomène, c'est la maison de la radio.
Ah bon ?
La façade de la maison de la radio, qui de mémoire a dû être posée dans les années 67-68, est constituée d'un aluminium qui a été anodisé à environ 20 microns, si ma mémoire est bonne. Et on peut constater tous les jours que, à part les traces de salissure liées à la pollution urbaine,
elle ne rouille pas.
Eh bien, il n'y a pas de corrosion.
Pourtant, il pleut et on est juste au-dessus de la Seine.
Heureusement qu'il pleut parce que ça lessive, ça nettoie la surface et ça évite que les petites particules de carbone qui pourraient être dommageables ne viennent initier des corrosions locales.
Merci Claude-Rie. C'est vrai que notre bonne vieille maison de la radio ne rouille pas. L'écrivain irlandais Oscar Wilde est né à Dublin le 16 octobre 1854. Écrivain reconnu, il a fait une très jolie carrière, jusqu'à ce jour de mai 1895, où il a été condamné à 2 ans de travaux forcés pour homosexualité. Il était déjà venu en France pour son plaisir, y avait rencontré Victor Hugo, Edgar Degas, Sarah Bernhardt. Après son séjour en prison, c'est un homme brisé qui revient à Paris. Il est seul, ruiné et n'a plus la force d'écrire. André Gide restera son ami jusqu'au bout, ainsi que son amour de jeunesse, Robert Ross. Oscar Wilde meurt d'une méningite dans un hôtel du 5e arrondissement de Paris, en face des Beaux-Arts, le 30 novembre 1900. Il est enterré au Père-Lachaise. Comme il avait beaucoup d'esprit, on trouve ces bons mots un peu partout. Ceux que je vous propose ont été réunis sous le titre d'aphorismes, édité chez Arléa. Quand on me donne un bon conseil, je le transmets toujours à quelqu'un d'autre. C'est la seule chose qu'on puisse en faire. Les bons conseils ne vous sont jamais d'aucune utilité. Après un bon dîner, on peut pardonner à tout le monde, même à sa famille. Les femmes sont faites pour être aimées, pas comprises. C'est passionnant de comprendre le monde, mais pense-t-on à l'aimer, tout simplement ? Il vaut mieux prendre plaisir à regarder une rose que placer ses racines sous un microscope. De nos jours, rares sont les parents qui se donnent la peine d'écouter ce que disent leurs enfants. Le respect que l'on témoignait jadis à la jeunesse est en passe de disparaître. Et enfin, il n'y a rien que je souhaite changer en Angleterre, sinon le temps qu'il y fait. Les petits bateaux sont terminés pour ce soir, mais bien entendu, vous pouvez faire un tour sur notre site ou bien télécharger cette émission et la réécouter quand bon vous semble, ou bien faire partager vos amis, ou bien la faire partager à vos amis. Merci à Élise Christophe, à Eliane Gérard et à Marjorie de Boucou.